Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui, je vous raconte le destin hors du commun d'Anne Bonny, une femme pirate pendant l'âge d'or de la piraterie à l'aube du XVIIIe siècle. Elle a partagé l'aventure de personnages entrés dans la légende. Mary Read, John Rackham, Benjamin Hornigold, Sam Bellamy et Barbe Noire. Oubliez vos idées reçues selon lesquelles les femmes étaient interdites sur les bateaux ou que les pirates étaient tous sanguinaires. C'est l'histoire passionnante et pleine de rebondissements des pirates des Caraïbes que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui dans un récit en deux parties. Anne Bonny et l'âge d'or de la piraterie. Épisode 1. La pirate de Nassau. Nous sommes le 31 octobre 1720. Le bateau du capitaine pirate John Rackham, alias Calico Jack, est amarré près de Negril, un village situé à l'ouest de l'île de la Jamaïque. La nuit est douce. Les cales sont pleines d'or et d'objets précieux. Sur le pont, les bouteilles de rhum vides s'amoncellent. On fait la fête après des expéditions réussies. Anne Bonny, épouse du capitaine, et Mary Read, une autre femme pirate à bord, boivent moins que les hommes. Contrairement à eux, elles restent toujours sur le qui-vive. Préservées des brumes de l'ivresse, elles se rendent compte qu'un bateau s'approche d'eux dans la nuit noire. Le capitaine Barnett et ses hommes, envoyés par le gouverneur de Jamaïque, montent soudainement à bord et mettent les pirates en état d'arrestation. Alors que les hommes sont trop saouls pour se battre, Anne et Mary sortent leurs pistolets et leurs sabres. Elles injurient copieusement leurs camarades et attaquent les militaires. Les lames qui s'entrechoquent font des étincelles dans la nuit. Les balles fusent dans tous les sens. Anne cherche des yeux Calico Jack sans le trouver. Une vague de mépris pour sa lâcheté décuple sa hargne. Elle ne se laissera pas arrêter sans se battre. Anne est née le 8 mars 1697 près de Cork, en Irlande. Son père, William Cormac, est un avocat catholique prospère. Sa mère, Mary Brennan, est sa domestique. D'abord cachée aux yeux de l'épouse de son géniteur, Anne est introduite dans la maison familiale déguisée en garçon alors qu'elle a une dizaine d'années. Son père la fait passer pour son commis. La supercherie ne fonctionne pas très longtemps et l'avocat abandonne son épouse pour partir avec sa maîtresse et sa fille. Après un court séjour à Londres, la famille s'embarque pour le Nouveau Monde en pleine colonisation depuis sa découverte par Christophe Colomb 2 siècles auparavant. L'avocat s'installe dans la province de Caroline à Charlestown, la future Charleston de Caroline du Sud, en Amérique, où il prospère comme négociant et achète une petite plantation. Mary Brennan meurt prématurément, laissant à Anne, âgée de 12 ans, le rôle de maîtresse de maison. La petite rousse à la peau de lait a un tempérament de feu. Un siècle plus tard, les historiens la décriront comme une jeune fille violente. À 13 ans, elle aurait poignardé une servante de sa maison suite à un différend dont on ignore la cause. En 1714, à 17 ans, Anne s'entiche d'un pirate de bas étage nommé James Bonny et l'épouse sans l'accord de son père. James pense pouvoir profiter ainsi de la fortune des Cormac. Il se trompe. Furieux, William chasse sa fille du domaine familial et, pour se venger, James aurait mis le feu à la plantation. Entre 1714 et 1718, le couple s'installe à Nassau, la capitale de la République des pirates située sur l'île de New Providence, dans l'archipel des Bahamas. Anne n'a pas froid aux yeux. Elle est taillée pour l'aventure et elle est bien plus hardie que James. Vivre au milieu des pirates alors qu'elle n'a pas 20 ans ne lui fait pas peur. Et pas question de se prostituer comme les filles des tavernes. Elle se fait vite respecter à l'égal des hommes. Nassau, la capitale des pirates, est une bourgade faite de briques et de brocs sur une plage de sable fin. Des pontons s'avancent dans les eaux bleues lagons des Caraïbes vers tout un tas de navires allant du bateau de pêche au vaisseau de guerre. Ils battent tous pavillon noir, celui des pirates. Pour les pirates anglais, ce pavillon prend le nom de Jolly Roger. Chaque capitaine a le sien, comme un blason. Les crânes, les tibias croisés, les sabres, les cœurs ensanglantés sont des memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Les bouches de Nassau, ces cabarets sordides et malfamés, sont remplis de prostituées et de propriétaires de gargotes aussi cupides que les pirates qu'ils délestent de leur or. La République des pirates a ses règles en partie édictées par les deux capitaines qui font office de gouverneurs, Benjamin Hornigold et Henry Jennings. Ces deux hommes que tout oppose se détestent. Hornigold est un homme sorti de nulle part qui s'est imposé comme un leader charismatique. Il a un sens aigu de la justice. À l'inverse, Henry Jennings est un aristocrate doublé d'un aventurier. Sa famille possède une plantation en Jamaïque. Il est aussi éduqué que sadique et violent. Anne les observe tous les deux avant de choisir lequel deviendra son mentor en piraterie. Avant de devenir la République des pirates en 1714, Nassau était la République des corsaires. Les pirates sont hors la loi alors que les corsaires travaillent pour un royaume. Pendant la guerre de succession d'Espagne, entre 1701 et 1713, les Bourbons, à la tête de la France, et les Habsbourg du Saint-Empire romain germanique, s'affrontent pour placer un nouveau roi sur le trône d'Espagne et entraînent toute l'Europe dans ce conflit. L'Angleterre se rallie aux Habsbourg. La guerre devient navale et perturbe les routes commerciales vers les colonies du Nouveau Monde dont les Caraïbes sont le carrefour à cause des alizés. Les marines européennes intègrent dans leur rang des dizaines de milliers de corsaires. Dans le cas de l'Angleterre, il s'agit de mercenaires placés sous le commandement d'un marin de la Royal Navy ou habilités par une lettre de marque, une autorisation royale, à attaquer d'autres bateaux. Les corsaires de la Royal Navy sont bien souvent des Anglais miséreux qui rêvent d'aventure et de fortune. Mais ils déchantent vite. Les capitaines raflent la quasi-totalité des butins et se comportent comme des tyrans à bord en jouant un peu trop du fouet pour se faire obéir. Sur les bateaux dirigés par des corsaires, la vie n'est pas plus facile, mais l'ambiance est plus égalitaire. Les vrais corsaires comme Benjamin Hornigold et Henry Jennings ont des règles. Le butin est partagé de manière équitable avec seulement un petit bonus pour le capitaine. Si un marin doit être puni, tous les membres de l'équipage doivent être d'accord. Et enfin, si le capitaine se montre incompétent, les pirates peuvent voter pour le maintenir ou bien le débarquer et le remplacer. La démocratie et une relative justice sociale font partie de l'éthique de la République corsaire fondée en 1706. En 1713, le traité d'Utrecht met fin à la guerre de succession d'Espagne. Les Bourbons s'installent sur le trône. Le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, est reconnu comme roi d'Espagne par toute l'Europe après avoir renoncé à ses droits successoraux en France. Après un si long conflit, les caisses des royaumes sont vides et les lettres de marque sont annulées. Dans les Caraïbes, près de 35 000 corsaires se retrouvent au chômage. Pour survivre, une partie d'entre eux se tourne vers la piraterie et passe notamment dans les flottes de capitaines reconnus tels que Hornigold et Jennings. Les pirates sont indépendants, hors la loi, et attaquent les bateaux commerciaux. Certains pirates, comme Hornigold, ont de grands principes patriotiques et refusent autant que possible d'aborder les bateaux arborant le pavillon anglais. D'autres ont moins de scrupules. Les pirates ont une préférence marquée pour les galions espagnols qui ramènent de l'or de l'Amérique du Sud vers l'Espagne. Mais les bateaux de marchandises et de colons font tout aussi bien l'affaire. Le plus fin délice du pirate est de confisquer un bateau militaire lourdement armé et rapide avec son chargement. Contrairement aux légendes populaires, tous les abordages pirates ne passent pas par un bain de sang. Certains capitaines, comme Sam Bellamy, refusent les meurtres gratuits. La légende raconte qu'il s'est engagé dans la piraterie par amour. Bellamy navigue sur un sloop, un petit voilier, dans les zones côtières de Floride, dans l'espoir de retrouver l'or d'une flotte espagnole coulée par une tempête. En 1716, dans la région du Cap Cod, située au nord de la côte est américaine, il fait une halte dans la ville de Eastham, où il rencontre une adolescente de 15 ans, Marie-Alette. Il en tombe fou amoureux, mais les parents de Marie refusent de céder la main de leur fille à cet aventurier. Alors, Sam promet à son amante de devenir pirate et de revenir la chercher avec des trésors plein son bateau. Il part sans savoir que Marie est enceinte. En croisant dans les Caraïbes, il rencontre Benjamin Hornigold, dont il devient proche. Les deux hommes partagent la haine du sang versé gratuitement. Et pour éviter de pousser les occupants des bateaux attaqués à se battre, Sam Bellamy, qu'on appelle maintenant Black Sam, a une méthode bien à lui. Avant l'abordage, tous les pirates se mettent complètement nus et ne gardent sur eux que leurs armes, épées, pistolets et ceintures de munitions. Pour les marins des bateaux attaqués, ces pirates ressemblent à des possédés tout droit sortis de l'enfer. Ils en ont si peur qu'ils se rendent sans discuter. Après l'annexion d'un vaisseau, Bellamy propose aux hommes et aux femmes à bord de rejoindre son équipage. Beaucoup de marins acceptent cette offre, mais parfois, des passagers sont aussi intéressés, notamment à bord des négriers. Les négriers sont appréciés des pirates. Au XVIIIe siècle, le commerce triangulaire bat son plein. Les navires quittent les côtes européennes avec diverses marchandises, comme des bijoux, des armes, du mobilier, et accostent sur la côte ouest de l'Afrique au niveau de leur comptoir entre le Sierra Leone et l'Afrique centrale. Ils échangent avec les royaumes noirs de l'arrière-pays ces marchandises contre des esclaves, souvent capturés dans des royaumes moins puissants que les leurs. Les vaisseaux européens traversent ensuite l'Atlantique. Les esclaves sont entassés dans les cales, attachés, mal nourris, sans hygiène. Les maladies infectieuses, comme la dysenterie, tuent 8 à 15% des prisonniers avant la fin du voyage. Après avoir livré leur cargaison, les négriers rentrent en Europe chargés de sucre, de café, de tabac et d'or. Ils sont alors des cibles de choix pour les pirates, dont le célèbre Barbe Noire, qui aime recruter ces nouveaux pirates parmi les esclaves des bateaux qu'il aborde. Il a même fait de l'un d'eux, Black César, son second. Edward Thatch, plus connu sous le nom de Barbe Noire, est un personnage hors norme. Il semble avoir reçu une bonne éducation. Il sait lire et écrire. On raconte même qu'il maîtrise le latin. Peu adepte du sang versé, il s'est forgé un personnage effrayant dont la seule vue suffisait à faire déposer les armes. Lorsqu'il partait à l'abordage, il surgissait sur le pont, armé jusqu'aux dents, sabre et pistolet à la main, avec des mèches de poudre allumées dans sa longue barbe noire comme si des étincelles de feu en sortaient. Lorsque tous ces capitaines pirates font escale à Nassau, ils emmènent avec eux les marins de leur flotte. Nassau prend alors des allures de ville cosmopolite. Après avoir observé tous ces pirates pendant plusieurs mois, Jennings, Hornigold, Barbe Noire, Bellamy, Anne Bonny décide de s'engager auprès de son capitaine préféré. Elle se rapproche de Jennings, dont le goût pour la torture de ses prisonniers répond à sa propre soif de violence. Après quelques temps à Nassau, elle rencontre un nouveau pirate fraîchement débarqué, John Rackham alias Calico Jack. Il a 15 ans de plus qu'elle et il lui plaît beaucoup. Il fait lui aussi partie des proches de Jennings. L'amour de Rackham et d'Anne est sincère. Calico Jack est même prêt à acheter Anne à James Bonny, son mari. Encore faut-il que celui-ci accepte. Mais pour l'heure, une étonnante nouvelle venant d'Angleterre va ébranler l'équilibre démocratique de la République pirate. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Anne Bonny et à l'âge d'or de la piraterie, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.